Chapitre 90. D'abord, une lumière aveuglante, aussitôt associée à une chaleur infernale. Vincent plonge sur les deux vénérables chercheurs pour les protéger. L'embrasement de la totalité de la crypte est d'une fulgurance inouïe, engendrant un souffle ardent qui balaie l'espace d'un tourbillon dévastateur. La propagation de l'onde de feu sur les parois ne dure que quelques instants. Elle se répand plus vite qu'un cheval au galop, transformant toute la salle en une bulle incandescente dont les membres des deux camps sont les captifs. Dans la panique, un malfrat tire des coups de feu, des cris de douleur et de surprise résonnent. La violence de la scène n'a d'égal que sa soudaineté. La tempête se retire aussi rapidement qu'elle était apparue. Pris de court et désorientés, les mécréants ont lâché leurs outils. L'un d'eux a les yeux brûlés parce qu'il se tenait près du mur. Il erre en geignant, les mains sur son visage, se tordant de douleur. Un second reste prostré par terre, ses cheveux calcinés, la peau de son visage et de ses mains carbonisées. Un autre gît étendu sur le sol, inerte, face contre terre, des flammèches incendiant encore son gilet. Le dernier tente de se relever, mais Vincent le prend de vitesse et n'a pas besoin de frapper fort pour le mettre hors d'état de nuire. Le théologien et l'historien, abasourdis, n'ont sans doute pas compris ce qu'il s'est passé, mais au-delà de leur abrutissement, leur état de santé n'inspire pas d'inquiétude. Le gardien de nuit est encore sous le choc, mais il parvient à se relever seul malgré ses entraves. Les cochers se libèrent en s'aidant les uns les autres. Les visages sont noircis, il flotte dans l'air une odeur chimique suffocante qui se mêle à celle des cheveux et de la chair brûlée. Addison est le seul à ne pas se relever. Il est resté couché sur le flanc. Vincent se précipite. « Charles, Charles, répondez-moi !» Tandis que Vincent envisage déjà le pire, son aîné finit par tousser. Il roule sur lui-même et reste étendu sur le dos. Il sourit comme jamais. Charles tend la main à son complice pour qu'il l'aide à se remettre sur pied. Les vêtements des deux hommes sont couverts de traces de brûlure, leurs visages maculés de suie.
« Votre idée était brillante, Vincent, mais vous avez failli tous nous tuer. »
Ils nous ont trouvés et ce coup-ci ce n'est pas moi qui ai pu trahir notre position.
Ils nous auront suivis. Assurons-nous qu'il n'y en a pas d'autres là-haut.
Il n'y en a pas, affirme le cocher qui tenait compagnie aux veilleurs dans sa loge. Aucun d'eux n'a voulu rester dehors alors que les autres risquaient de découvrir un magot. Parfait. Évacuons ces monstres. Le gardien de nuit, ahuri, regarde autour de lui. « Êtes-vous en état de comprendre ce que je vous dis, mon ami ?» lui demande Vincent.
« Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai failli crever. »
« Il ne s'est rien passé. Si vous acceptez de vous en tenir à cette version, alors je vous promets assez d'argent pour vous mettre à l'abri, vous et votre famille. Que diriez-vous d'une maison ?» L'homme sourit largement.
« Ça, je comprends. » Il ne s'est rien passé du tout.
Rentrez chez vous comme vous le faites d'habitude. L'un de nous viendra vous livrer votre fortune et vous pourrez démissionner. Le gardien désigne le pilleur couché au sol.
J'ai bien cru que ces sauvages allaient m'assassiner.
Si vous gardez le silence, personne ne vous fera de mal. L'homme hoche vivement la tête.
Une fortune pour les miens.
Une fortune de ma poche, je vous le garantis. Et maintenant, je vous confie à l'un de mes compagnons qui va vous ramener. Vincent retourne le corps inerte. Sa boîte crânienne est ouverte. Son compte est bon. De la poche du bandit, Vincent retire la médaille de croisade arrachée au chevalier momifié. Il se rend auprès du défunt, s'incline devant sa dépouille et replace le bijou autour de son col. Il s'incline à nouveau et recule. Charles, voulez-vous m'aider à refermer le couvercle sur ce malheureux ? Tandis que les cochers évacuent les blessés, Addison vient prêter main forte à Cavell. Leurs exactions nous ont au moins permis de constater qu'il n'y a aucune relique dans ce tombeau-ci. Les deux hommes tentent de soulever la lourde pierre, mais Addison ne parvient même pas à la décoller du sol.
Cette dalle est bien trop pesante pour moi, s'excuse-t-il, le souffle court.
Vincent se retourne vers les cochers pour les solliciter. Il réalise alors qu'il n'a pas revu l'homme qu'il avait choisi. Qu'est-il devenu ? Il regarde autour de lui, fait le tour du puits en redoutant de découvrir son corps, lorsqu'une voix faible se fait entendre.
« Au secours, aidez-moi !»
Cavell et Addison se regardent. La voix se manifeste à nouveau.
« Vous m'entendez ?»
Aucun doute possible. L'appel vient du fond du puits. Chapitre 91. Vincent descend lentement dans le puits. Debout, le pied calé dans une boucle, il agrippe fermement la corde d'une main, l'autre tenant une lanterne. Il s'enfonce régulièrement, son allure réglée par les cochers. Quand il relève la tête, il aperçoit Addison penché au-dessus de la margelle, dont le visage s'éloigne progressivement. Le conduit vertical traverse à présent une couche de roche plus sombre. Il n'aperçoit toujours pas le fond en contrebas, mais il entend l'écho des mouvements du malheureux dans l'eau.
« Tenez bon !» lui crie-t-il. « J'arrive !»« J'aperçois votre lumière. Faites attention ! Vous approchez de l'endroit où le puits débouche. »
« Débouche ?» s'étonne Cavell.
« Débouche sur quoi ?»« Là où je suis tombé, je n'y vois rien, mais à en juger par la résonance, c'est sûrement assez grand. »
Depuis le début de la descente, afin d'éviter de tourner sur lui-même comme une toupie, Vincent se stabilise de temps à autre en prenant brièvement appui sur la paroi du conduit. Tout à coup, il ne la trouve plus sous sa main. La cheminée qui l'entourait a disparu. Sa lanterne se perd dans la nuit. Il est passé brutalement d'un espace confiné à un vide sans aucun repère. Déstabilisé, il a l'impression de flotter dans le néant.
« Interrompez la descente !»
hurle-t-il.
« Tout va bien ?»
demande la voix lointaine d'un des cochers.
« Je ne sais pas trop !»
L'à-coup de l'arrêt n'arrange pas son malaise et Vincent se met à osciller. Il resserre sa prise sur la corde et tente d'appréhender son environnement. La lueur de sa lampe accroche brièvement quelques détails. Il met un moment à comprendre qu'il est désormais suspendu sous le dôme d'une grotte souterraine. Comme un spéléologue, il domine un réservoir d'eau naturelle contenu dans une vaste cavité. Plusieurs mètres plus bas, il aperçoit le blessé immergé jusqu'à la ceinture, qui, grâce à la lumière, découvre lui aussi l'endroit où il a été précipité.
« Bon sang, qu'est-ce que c'est encore que ça ?»
grommelle Vincent. Il tend sa lanterne au bout du bras pour élargir la zone éclairée, ce qui lui permet de mieux discerner le volume de la caverne.
« C'est gigantesque !»
s'exclame-t-il. L'écho de sa voix amplifie l'expression de sa surprise. Cette grotte aux parois brutes ne peut être que naturelle. Ses flancs sombres, aux replis acérés, n'ont pas été taillés.
« Reprenez la descente !»
lance Vincent au cocher. Au-dessus de lui, le conduit du puits n'est plus qu'un modeste trou qu'il serait difficile de repérer dans le chaos du dôme rocheux sans la corde à laquelle il est accroché. Vincent se rapproche de la surface du lac souterrain.
« Vous avez pied ?» demande Vincent au blessé tout proche. « Là où je suis, oui. J'ai réussi à trouver un endroit moins profond. Heureusement, il y avait du fond là où je suis tombé. Je n'ai sans doute qu'une cheville cassée.
Vous avez eu de la chance de ne pas vous tuer après une pareille chute. Cette nappe phréatique vous a sauvé la vie. » Il lève la tête et hurle en direction du puits.
« Vous pouvez arrêter ! Je suis avec notre compagnon !»
L'écho de son message tourne dans la grotte souterraine, tandis qu'une voix lointaine accuse réception. Lâchant la corde, Vincent descend dans l'eau froide. Prenant soin de maintenir la lanterne le plus haut possible, il rejoint l'homme en quelques brasses malaisées. Il a bientôt pied lui aussi.
« Vous êtes transi, vous grelottez.
Le courant n'est pas puissant, mais quand on reste immobile, on le sent. »«
Sacré plongeon !» fait remarquer Vincent. « Qu'est-ce qui vous a pris ?»
Le feu s'est répandu avec une telle violence que j'ai pris peur. Sans réfléchir, j'ai sauté pour me mettre à l'abri dans le puits.
Tout est allé si vite. Vous avez réussi à vous en sortir, là-haut ?
Nous avons repris l'avantage. À part vous, pas de blessés à déplorer chez les nôtres. Soulagé, l'homme soupire en passant une main dans ses cheveux. La chute m'a paru longue. Elle l'est. Je me suis vraiment demandé ce que j'allais devenir dans ce trou. La nuit noire, le silence, ma cheville ruinée. Je n'ai jamais été aussi heureux d'entendre quelqu'un me répondre. Merci d'être venu me chercher. C'est moi qui vous ai désigné et je me sens responsable. L'homme lui tend la main. David. Cavell la serre. Enchanté, David. Moi, c'est Vincent. Quelle rencontre mémorable, au fond d'un gouffre. Nous n'oublierons jamais cet endroit. C'est certain, nous sommes sans doute les premiers à descendre ici. Ne traînons pas, vous allez remonter le premier. Alors que Vincent se penche pour passer un bras autour de son compagnon, la clé attachée à son cou sort de son col. Elle ballotte d'abord au bout de sa cordelette, mais se stabilise rapidement, pointant une direction dont elle ne semble pas vouloir dévier. Gêné, Cavell commence par la sentir, puis, baissant la tête, il l'aperçoit. Il relâche délicatement David et observe l'objet attentivement. « Vous avez vu ça ? Votre clé, effectivement, vous auriez pu la perdre. Non, je parle de ce qu'elle désigne. » Cavell fait passer le cordon par-dessus sa tête de manière à pouvoir l'utiliser comme un pendule. Il tend le bras, la déplace, l'oriente dans tous les sens, mais elle s'obstine à indiquer la même direction. « Je vous demande un instant, » fait Cavell en s'avançant dans le flot. Il se cale sur le cap et progresse prudemment dans le lac. Il perd parfois pied pendant quelques instants, mais retrouve chaque fois un appui. La clé le conduit vers un recoin de la grotte. Alors qu'il s'approche d'une étroite berge, son pied heurte un obstacle englouti. Se baissant, il palpe sous l'eau ce qui ressemble à une bordure de bois surmontant une surface courbe. Il comprend très vite qu'il s'agit des restes d'une barque immergée. « Nous ne sommes pas les premiers à venir ici, David. Que voulez-vous dire ? » Toujours guidé par la clé, Vincent a pratiquement atteint la paroi de la caverne. Partout où ses yeux portent, il n'y a que de la roche. L'obstination de la boussole serait-elle une erreur ? Soudain, dans un repli, il repère une faille, un passage assez large pour s'y faufiler. La clé ne laisse aucun doute. C'est le chemin à suivre. David ?
Oui ?
Vous sentez-vous la force de rester quelques instants de plus ? Chapitre 92. Cette galerie-là n'a pas été creusée par la main de l'homme. C'est une fracture naturelle d'où s'écoule un ruisseau, une brèche, qui s'insinue entre deux pans de roche brute dont la couleur ardoise dévore la lumière de la lanterne. L'onde cristalline se fraye un chemin en murmurant parmi les reliefs irréguliers du sol qu'elle a arrondi depuis la nuit des temps. Vincent progresse péniblement en pataugeant dans le cours d'eau, soutenant David, qui, ayant refusé de rester seul dans l'obscurité, a tenu à l'accompagner même si sa cheville le fait souffrir. Il boite atrocement, posant le moins possible son pied blessé. Chaque contact avec le sol le fait grimacer, mais il étouffe ses plaintes. Le parcours est tellement accidenté que les deux hommes sont constamment obligés de prendre garde aux arêtes vives qui frôlent leur tête, tout en se méfiant des obstacles qui pourraient les faire trébucher. « Vous êtes certain de ne pas vouloir m'attendre ?» propose à nouveau Vincent. « Vous pourriez vous reposer par ici, sur une des pierres, au sec. Je vous ralentis trop, c'est ça ?»« Je crains surtout pour votre seule cheville encore valide, d'autant que rien ne garantit que ce trou à rats mène quelque part. S'il vous plaît, ne m'abandonnez pas dans le noir, j'en perdrai mes nerfs. » Vincent n'insiste pas. Heureusement, ils ne sont pas longs à déboucher dans un espace plus dégagé. C'est d'abord l'écho du grondement régulier d'une cascade qui leur parvient. Le son paraît si lointain que cette nouvelle cavité pourrait se révéler étonnamment vaste. L'intensité du roulement de l'eau indique un débit bien supérieur à celui du ruisselet qu'ils ont remonté. Leur éclairage limité ne leur permet d'appréhender que ce qui se trouve à proximité. Ils s'aventurent, au cœur d'un univers minéral chaotique dénué de toute vie. À peine ont-ils fait quelques pas, qu'au-delà des formes irrégulières, Vincent aperçoit une sorte de stèle dressée dans la nuit. Il constate bientôt qu'il s'agit d'un monolithe qui lui arrive à la poitrine, taillé d'un seul bloc, dans une géométrie simple mais parfaitement maîtrisée. Le sommet est creusé d'une vasque emplie d'un liquide visqueux et au fond de laquelle se dresse une mèche noire. « On dirait une lampe à huile géante », s'étonne-t-il. « Allumons-la », suggère David, que les ténèbres insondables mettent de plus en plus mal à l'aise. Méfiant, Vincent pince la mèche et recueille sur ses doigts un peu de la matière épaisse qui l'imbibe. Il la respire, puis dubitatif, la goûte et hausse un sourcil. De l'huile, en effet, épaisse et atrocement rance, mais c'est de l'huile. Il ouvre sa lanterne et, l'inclinant avec précaution, essaie d'enflammer le cordon. Contre toute attente, celui-ci finit par prendre. La flamme, d'abord hésitante, crépite et grandit peu à peu, conjuguant son éclat à celui de leur lampe. Dans la lumière qui augmente, David repère une seconde stèle un peu plus loin. En voilà une autre. Vincent va l'allumer, tandis que son compagnon, ravi de voir s'éloigner le spectre d'une nuit oppressante, s'accorde une pause pour soulager sa cheville. Il désigne le cours d'eau qui traverse la grotte. C'est certainement la source qui alimente le lac. Elle doit jaillir par là-bas au fond de cette caverne, au niveau de la chute d'eau que l'on entend. Alors que la deuxième lampe à huile s'illumine, le renfort de lumière en révèle une troisième. Le phénomène se répète encore et encore. Ce n'est qu'après avoir enflammé la cinquième lampe que Vincent prend conscience de l'immensité de la caverne souterraine. Le nez en l'air, il commente. Cette salle est encore plus grande que celle du lac. David ne réagit pas. Il est assis, complètement immobile, les yeux écarquillés, la bouche ouverte. Vous avez mal ? S'inquiète Cavell. Incapable de prononcer une parole, David désigne d'un mouvement du menton le fond de la caverne. Celui-ci se retourne et se fige à son tour. Face à l'intimidante majesté de ce qui se révèle à lui, Vincent recule de quelques pas, sonné, manquant de perdre l'équilibre. Un véritable donjon se dresse devant eux, une tour ronde et massive, digne des plus spectaculaires châteaux forts. Accolée à la paroi de la grotte, elle est si haute que les lampes ne parviennent pas à en éclairer le sommet, qui se perd sous la voûte. « Par tous les saints !» murmure-t-il. Il peine à reprendre ses esprits. « Qui a pu bâtir une telle forteresse dans un endroit pareil ? Un donjon dans les entrailles de la terre ?» La construction dégage une telle intensité qu'elle en devient effrayante. Une puissance silencieuse, endormie, tout juste tirée d'une obscurité où elle attendait depuis des siècles, tapie au fond de sa tanière. Son apparence particulière concourt à la rendre plus mystérieuse encore. Elle ne présente en effet ni meurtrière, ni fenêtre, et plus étonnant encore, aucune porte d'entrée. Sa forme épurée, sans la moindre aspérité, lui confère des allures de bouclier géant qu'un titan aurait posé contre la muraille de son repaire enfoui. Il faut de longues minutes à Vincent pour seulement oser s'en approcher. À chaque pas qu'il accomplit dans sa direction, il se sent de plus en plus écrasé par la grandiose fortification totalement hermétique. Ce n'est qu'à quelques mètres d'elle qu'il commence à en comprendre la structure d'apparence silice. L'enceinte circulaire est composée de milliers de pierres taillées de toutes dimensions, parfaitement ajustées, afin de s'imbriquer les unes aux autres et assemblées sans le moindre joint. Un rempart absolu, n'offrant ni prise, ni aspérité, ni faiblesse, aucun interstice, où glisser ne serait-ce qu'une pointe, un bastion imprenable, que peut-il bien protéger? Vincent s'avance encore pour toucher, sentir, mais une force invisible retient son geste. Sa paume reste en suspens. Il est trop impressionné pour se permettre ce contact. Au pied de la muette carapace de pierre, instinctivement, il met un genou à terre et baisse la tête. « Je ne suis pas ici pour te piller », murmure-t-il. « Des pas improbables m'ont mené jusqu'à toi. Mais peut-être le sais-tu déjà. Me laisseras-tu tenter de te comprendre ?» À cet instant, il aurait interprété n'importe quel signe, du plus infime tremblement de terre au son le plus inattendu, comme une injonction à renoncer, à laquelle il se serait plié. Mais ce silence qui dure et cette présence colossale qui le tolère à ses pieds sans le broyer lui apparaissent comme une pacifique permission. Vincent se relève, empli de gratitude, soulevé par le désir de protéger ce lieu exceptionnel quoi qu'il arrive. Il parcourt le périmètre de la tour, mais elle ne livre rien de plus. Elle s'avère impénétrable, et son incrustation dans la paroi relève de l'exploit. La perfection de la réalisation, associée à l'absence d'ornement, l'éloigne de toutes les constructions humaines, comme si cette élévation n'était pas un assemblage fabriqué, mais un être à part entière. En son fort intérieur, Vincent sait que ce donjon est le plus grand mystère auquel il ait été confronté. Alors qu'il échafaude déjà les théories les plus excentriques, David ose. « Je ne crois pas que vous pourrez réussir seul. Il vous faudra revenir. Le temps nous manque. Nous sommes loin de notre monde, Vincent, et nous avons du chemin à faire avant de le retrouver. »